franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et ce sont des coccinelles qui sont aujourd'hui à la une de la science. Elles sont dans les grandes villes pour limiter l'usage des pesticides.
Ouais, il y a des pucerons sur les rosiers, pas trop la menthe, mais le céleri qui monte en graines est truffé de pucerons. Donc je sais qu'une larve de coccinelle mange jusqu'à 100 pucerons par jour. C'est plutôt intéressant, quoi. C'est mieux que de passer le doigt sur la fleur et l'esquinter.
Donc vous repartez avec deux petites fioles?
C'est ça, deux petites fioles de coccinelle Adalia pinctata. Ouais.
Voilà, c'était Jeanne-Marie Marco pour France Bleu, qui était donc ce samedi dans le parc de Bercy, où la mairie de Paris organisait donc une distribution de près de 40 000 larves de coccinelles à tous ceux qui souhaitent végétaliser la capitale. Des mangeurs de pucerons à déposer dans son jardin ou sur son balcon pour tenter évidemment de limiter l'usage des pesticides par les particuliers. Romain Nattier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entomologiste et maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et puis à vos côtés, comme tous les lundis, Hervé Kempf, notre confrère de reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Hervé, 40 000 larves de coccinelles distribuées donc ce week-end, ça semble beaucoup. Qui a bénéficié de ces dons?
Eh bien, les quelques dizaines de personnes qui sont ont un permis de végétaliser, c'est-à-dire qui peuvent, s'ils respectent un certain nombre de règles écologiques, planter des plantes à travers la grande ville de Paris. Alors, ce sont, comme le disait le témoin interrogé par notre consoeur, des Atalia bipunctata, c'est-à-dire des coccinelles à deux points, bêtes à bon Dieu, on les aime beaucoup. Et ça fait partie des rares insectes qu'on aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils mangent, ils sont des adis. Aphidiphages, des mangeurs de pucerons et les pucerons qui envahissent les rosiers et d'autres plantations. C'est important parce que les jardiniers amateurs sont parmi les plus grands consommateurs de pesticides. Ouais. Ils en mettent généralement trop et de mauvaise manière. Et ces pesticides vont commencer à être interdits à partir de 2019. Alors, il faut commencer à prendre l'habitude. Paris inaugure cette méthode cette année. C'est une très bonne chose. Elle suit la ville de Caen, qui fait ça depuis 15 ans et qui a des élevages même de coccinelles.
Alors Romain Nattier, parlez-nous un petit peu d'Adalia bipunctata, puisque c'est l'espèce de coccinelle distribuée. Quelles sont ses particularités?
Alors en fait, il s'agit d'une espèce qui est indigène, donc qui vit en France. C'est une espèce européenne et même française, donc qui n'est pas une espèce envahissante, déjà, premier point. C'est une espèce qui n'est pas très grande par rapport aux autres espèces de coccinelles, qui fait 5-6 mm de long. Alors, on la trouve sous différentes formes de couleurs. Elle peut être rouge à points noirs, noir à points rouges, elle peut être rouge avec deux points noirs, deux points rouges, tout dépend. Donc là, une grande variabilité morphologique. Et, chose intéressante, effectivement, les larves et les adultes se nourrissent de pucerons en grande quantité.
Est-ce que 40 000 coccinelles peuvent à elles seules permettre de réduire les pesticides et de ne pas utiliser de pesticides?
Alors, elles peuvent permettre de s'affranchir d'une certaine manière de pesticides, même si les pesticides ne visent pas uniquement à éliminer les pucerons, en l'occurrence. Néanmoins, effectivement, elles vont être un auxiliaire précieux dans la lutte biologique que souhaite mettre en place la ville de Paris.
Ça veut dire qu'il faut faire venir d'autres insectes dans son jardin?
Voilà, donc l'idéal, effectivement, c'est d'utiliser une grande panoplie en fait d'insectes auxiliaires, donc qui aident l'agriculteur ou le jardinier amateur également à se débarrasser des ravageurs, bien sûr. Ça peut aller donc des coccinelles en l'occurrence. On peut utiliser également des cirfes, qui sont des petites mouches qui ressemblent à des abeilles, dont les larves se nourrissent de coccinelles et les adultes se nourrissent de nectar, donc qui favorisent également la pollinisation. On peut également favoriser l'implantation dans parcs et jardins et dans les terrasses de chrysope. On appelle ça également des demoiselles aux yeux d'or. C'est comme une mouche, mais assez longue, toute verte, avec des yeux dorés, dont là, les larves également sont très friandes de pucerons.
Et tous ces insectes ensemble, ça va, ça s'entend bien et
Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne vivent pas exactement au même endroit. Donc, il n'y a pas de compétition complète entre elles. Et donc, si l'habitat est assez varié, ça se passe bien.
Alors, si je fais tout pour faire venir ces insectes et que mon voisin utilise des pesticides, est-ce que ça ne peut pas poser problème?
Alors, ça peut poser problème parce que, déjà, ça a bientôt été interdit, voilà, d'une part. Non, ça peut poser problème parce qu'effectivement, votre voisin, avec ses pesticides, d'une part, va faire fuir les pucerons dans votre jardin. Donc bon, voilà, mais ça donnera à manger à vos insectes. Et in fine, ça peut aussi détruire les insectes auxiliaires, donc les insectes qu'on utilise en lutte biologique à cause des pesticides.
Donc ça peut tuer nos coccinelles complètement?
Voilà, exactement, en forte quantité, ça peut, oui.
Au final, relâcher comme ça 40 000 coccinelles d'un coup dans la ville de Paris, ça fait beaucoup de prédateurs. Est-ce que ça ne peut pas avoir un effet néfaste?
Alors, ça ne peut pas forcément avoir un effet néfaste, puisque ces coccinelles-là, en l'occurrence, sont des coccinelles de nos régions, d'une part, et d'autre part, elles se nourrissent principalement de pucerons. Donc, elles ne vont pas aller s'attaquer aux autres insectes. Et ce qui est intéressant dans les relations prédateurs-proie, c'est qu'en règle générale, il y a une certaine régulation naturelle entre les deux. Et cette année, il y aura peut-être beaucoup de coccinelles par rapport aux pucerons, Mais l'année prochaine, ça sera peut-être différent.
Hervé.
Est-ce que ces méthodes de lutte par les insectes amis, les coccinelles, les sirfles, les chrysopes, est-ce que ça pourrait s'appliquer en agriculture et pas seulement dans les jardins urbains?
Alors, ça s'applique en agriculture. Alors, le problème qui se pose en agriculture, c'est que généralement, il faut que ce soit dans des environnements fermés, comme dans des serres, puisque il n'y a aucune raison que les sirfles, les chrysopes et les coccinelles adultes qui sont ailés restent dans le champ et n'aillent pas chez le voisin. Donc, ça s'applique déjà en agriculture. Le problème qu'il y a en agriculture et dans les milieux naturels, c'est que généralement, le taux de génération, notamment des coccinelles, est inférieur à celui des pucerons. En gros, les pucerons se développent plus vite que les coccinelles.
Ça vit combien de temps une coccinelle?
Ça vit plusieurs mois. Donc là, en l'occurrence, cette espèce-là vit à peu près de juin-juillet jusqu'au printemps suivant.
Ça veut dire que l'année prochaine, il va falloir redistribuer des larves? Elles ne vont pas se reproduire pour l'année prochaine?
Alors voilà, c'est là le problème qui se pose. C'est qu'en l'occurrence, elles vont se développer, se reproduire, mais pas forcément sur les sites où elles auront besoin. Donc ça doit s'accompagner également de mesures qui permettent de favoriser leur habitat pendant l'hiver. Et l'année prochaine, j'imagine qu'une nouvelle opération aura lieu afin de déposer les larves de coccinelles spécifiquement là où il y a des pucerons.
Alors pour ceux qui n'habitent pas forcément en ville, comment trouver ces auxiliaires de jardin qui n'ont pas profité de ces dons de la ville de Paris?
Alors on peut en acheter, tout comme la ville de Paris fait. Il y a plusieurs déjà grandes enseignes d'animalerie et de jardinerie qui en proposent.
Ah,
et on peut également les acheter par correspondance. Il y a plusieurs entreprises françaises qui en produisent, qui en élèvent et qui les vendent par correspondance, notamment à l'état d'œuf, qui sont le stade qui est le plus solide et propice à la vente.
Il y a des erreurs à ne pas faire quand on achète?
Par exemple, l'erreur à ne pas faire, bien sûr, c'est d'acheter une espèce exotique, envahissante, comme la coccinelle asiatique, qui pose un certain nombre de problèmes au fonctionnement écologique naturel.
Et ça pose des problèmes aussi aux coccinelles françaises?
Voilà, donc en l'occurrence, elles prennent la place dans les milieux naturels de ces espèces-là, parce qu'elles sont plus grosses, plus voraces et...
Pourquoi vous intéressez autant à la coccinelle, Romain?
Alors c'est un insecte magnifique, déjà d'une part parce qu'elle a une grande variété de couleurs, on a des jaunes, des noirs, des rouges, donc on peut étudier ça de manière spécifique. Et en plus c'est vrai que je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée pour le public, pour intéresser le public à des problématiques écologiques et environnementales comme le fait la mairie de Paris, ou dans le cadre de mes études à des problématiques plus d'évolution, de systématique, de collection. Donc c'est un insecte, on dirait, très sympa finalement, et qui accroche bien le public.
Mais du point de vue de l'évolution, alors ça a quel intérêt exactement?
Alors justement, au niveau de l'évolution, on peut étudier l'évolution des couleurs au sein des coccinelles, ou bien, là, par exemple, c'est ce qui nous intéresse, des relations entre les proies et les prédateurs.
Hervé Kempf, racontez-nous l'histoire de l'expression « la bête à bon Dieu » quand même. Je sais que vous la connaissez, cette histoire.
Ah ben, écoutez, il paraît que au Xe siècle, un meurtrier présupposé devait être décapité. Et puis une coccinelle est venue se poser sur le cou de la personne au moment où le bourreau allait abattre sa hache. Le bourreau a arrêté, la coccinelle a enlevé la coccinelle est revenue se poser. Le bourreau à nouveau l'a enlevé, la coccinelle est revenue se poser. On a arrêté la décapitation quelques jours, le temps de voir ce qui se passait, de se remettre à niveau, si j'ose dire. Et puis, dans l'intervalle, on s'est rendu compte que la personne que l'on voulait tuer n'était pas le coupable et que c'était un autre meurtrier.
Ah oui.
Et depuis, on dit la coccinelle, la bête à bon Dieu.
Voilà, gracié donc par le roi de l'époque, au Xe siècle, le nom qui s'appelait comment?
Robert II.
Robert II.
Et pas Jupiter.
Voilà, Romain Nattier, vous confirmez cette histoire?
Oui, tout à fait.
Bon. Tout a été dit sur la coccinelle.
Je pense qu'on a fait un tour de la carapace.
Voilà, pour ceux qui souhaitent s'intéresser, il ne faut pas forcément un permis, justement, de végétaliser pour pouvoir mettre ces larves.
En tant que particulier, on peut en acheter et les mettre dans nos jardins. Mais le permis-là était nécessaire pour que la mairie de Paris les donne gratuitement.
Ouais. Hervé Kempf, vous nous faites un article pour demain dans reporter.net.
Absolument, ça le mérite à la une.
Sur la coccinelle, on rappelle son nom puisqu'elle a deux tâches seulement.
La coccinelle a deux points, Adalia Bipunctata.
Merci beaucoup Romain Nattier, merci Hervé et Axel. À demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, c'est une pluie de comètes qui aurait pu modifier l'atmosphère terrestre à ses débuts. La sonde Rosetta, qui malgré son crash forcé sur la comète Chury en septembre dernier, continue de faire parler d'elle, apporte justement ces résultats importants. Les données collectées par ces instruments continuent d'être analysées. Et les chercheurs de Nancy publient donc aujourd'hui une analyse fine de la composition de la queue de la comète. Ils affirment que 22% du xénon contenu dans notre atmosphère serait d'origine de comètes comme Chury, une part importante qui serait la signature du bombardement cométaire survenu il y a 3,5 1,3 milliard d'années. Et puis en filigrane, la même question qui reste posée, la vie était-elle déjà présente sur une de ces comètes? On y revient d'ailleurs demain à la une de la science. Un champignon qui poussait au temps des dinosaures, c'est une découverte inouïe que viennent de réaliser des chercheurs chinois. La silhouette d'un petit champignon de quelques centimètres de haut, ressemblant à un rosé des prés, est parfaitement conservée dans une roche datée à 115 millions d'années. Il s'agit donc du plus vieux spécimen fossilisé. Les chercheurs expliquent que ce champignon est probablement tombé dans une rivière, dû à un glissement de terrain. Rivière qui aurait entraîné le champignon vers un lagon d'eau très salée. Et c'est en coulant rapidement au fond du lagon qu'il aurait été piégé dans les sédiments. C'est ce concours de circonstances incroyables qui a permis à ce champignon de traverser les âges jusqu'à nous. Et puis les corbeaux se souviennent des personnes malhonnêtes à qui ils ont affaire. Pour cette étude, plusieurs corbeaux ont été entraînés en captivité à faire des simples échanges d'objets contre de la nourriture, ça évidemment avec des humains. À plusieurs reprises, les humains de l'expérience ont volontairement berné les corbeaux en ne donnant pas la bonne récompense ou en donnant une nourriture de piètre qualité. Et bien non seulement les corbeaux ont appris à ne plus traiter avec des tricheurs, mais se sont également souvenus de leur visage pendant plus d'un mois en évitant tout nouvel échange. Un indice pour les chercheurs d'une forme avancée de coopération sélective entre corbeaux dans la nature.